Bien, bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Voilà, donc, alors, moi je suis Luc Robben, professeur à l'Université de Bordeaux, historien et également musicien.
Et moi je suis chercheur au CNRS, je ne suis pas musicienne, mais un peu.
En plus, si. Voilà. Et. Il y a quelques temps de ça, Solveig et moi, on a commencé à rassembler des idées pour travailler quelque chose qui nous parlait beaucoup, la scène punk en France. Et on a commencé à réfléchir à comment on pourrait monter un projet de recherche, travailler sur ce passé, sur cette culture punk, cette musique, cette création en résistance, parce qu'il nous semblait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Alors on va y revenir de manière un petit peu plus formelle, parce qu'on va présenter le projet. C'est juste pour dire qu'il s'agit de la 11e journée d'études, ce qui donne quand même une idée un petit peu de la densité, de l'intensité du projet, parce que c'est un projet qui a démarré il y a à peine 2 ans. Hein, donc on en est quand même déjà à la 11e journée d'études. C'est une journée d'études qui est délocalisée, ce qui montre aussi que voilà, on n'est pas resté bloqué sur Paris ou sur des thématiques traitées à Paris, mais qu'on a souhaité que ce projet s'ouvre évidemment à toutes les scènes en France, voilà. Considérant, et ça fait partie de notre travail de recherche, que le punk en France, c'est pas uniquement les grandes villes, c'est pas uniquement la capitale. Alors on y reviendra tout au long de cette journée.
Voilà, donc là en guise d'ouverture, on s'excuse pour les membres de notre équipe, parce que ça fait plusieurs fois qu'ils entendent la même chose, mais vous n'étiez pas à Toulouse nécessairement, alors voilà. Donc on va un peu vous présenter ce projet et puis tout ce qu'il y a à faire, parce que c'est un très gros projet, la France c'est très grand, donc il y a beaucoup de travail, et donc on va vous montrer un peu les pistes, voilà. Alors, c'est au cours de l'été 1976 que, simultanément aux États-Unis, en Australie, en Angleterre et dans de nombreux pays d'Europe comme la France, une multitude de formations musicales sont brutalement désignées ou s'autodésignent comme punk, un terme argotique qui signifie vaurien, voyou, pourri, sans valeur, homosexuel, prostitué, enfin bref, quelque chose qui n'est pas très très recommandable. Défini par Dick and Beach, qui est la personne qui a écrit tout de suite sur le punk en Angleterre. Donc Dick and Beach définit le punk comme une alliance improbable et mystérieuse de traditions hétérogènes et apparemment incompatibles. Tous ces groupes ont en commun la volonté de faire table rase de l'histoire du rock au moyen d'une musique qui revendique la simplicité, des textes qui se moquent des conventions sociales et politiques et une attitude énergique et provocatrice. Cette cacophonie sonore se double d'une cacophonie visuelle avec un répertoire vestimentaire tout aussi éclectique que la musique. Le punk fait donc feu d'un héritage complexe et riche dont il se nourrit et qu'il cherche à dépasser dans un refus des codes, des formes de la culture et des modèles établis de la contre-culture hippie. Alors, pour vous donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler le punk en France à cette époque-là...
Bon, désolé pour l'incident technique. Enfin, ce qu'on voulait montrer, c'était bon, Star Shooter, mais surtout cette manière de déboulonner hein, les idoles d'hier. Voilà. Alors, dans la France de Giscard, où bruissent encore les échos du gaullisme finissant à mai 68, l'explosion punk, marquée dès l'été 76 par le Festival de Mont-de-Marsan, donc premier festival punk du monde, prend à revers donc la morosité ambiante liée à la crise économique et à la forte hausse du chômage et clame son refus de l'ennui. Le mouvement trouve un premier achèvement en 78, lorsque les groupes emblématiques se sabordent et qu'une grande partie des scènes punk occidentales disparaît, débordée par le succès de nouveaux courants musicaux, comme le post-punk, la new wave, le disco. Pour autant, la dynamique punk trouve en France comme ailleurs, un second souffle avec l'émergence d'une nouvelle scène qui se cristallise autour de son musical plus dur, de textes plus engagés politiquement, et on verra émerger notamment ce qu'on a appelé par la suite l'anarcho-punk, l'apparition de catégories musicales, hardcore, oi, et de nouveaux codes vestimentaires. On va voir par la suite apparaître d'autres looks, hein, cuir clouté, crête, etc., mais qui n'étaient pas là au départ, et qui réinventent donc jusqu'à nos jours le son et l'être punk.
Alors, c'est l'étude de cette histoire, de ces 40 ans d'histoire en recomposition, de ces paradoxes, de ces forces et de ces fragilités, qui constitue le cœur du vaste projet de recherche qu'on a lancé donc avec Luc il y a 2 ans, qu'on a appelé PIND, pour Punk is not dead, une histoire de la scène punk en France. Et ce projet, c'était à la fois un défi et une rupture en termes de posture thématique, scientifique et épistémologique. Alors pourquoi ? D'abord parce que notre projet cherche à relever le défi d'un objet qui est illégitime, à la fois dans nos institutions, parce que c'est pas très facile de travailler sur le punk, et aussi dans la société. Inutile de rappeler que pour plein de gens, enfin, quand on dit punk, on voit le marginal avec sa crête et son chien, ça a autant mauvaise presse dans la société civile. L'objet est également un objet vulnérable. En effet, on en parlait avec Estelle tout à l'heure, la génération d'origine très fragilisée par ne serait-ce que la prise de stupéfiants, etc., est en train de s'éteindre. Et en termes d'archives, il y a une vraie urgence à collecter, à mener un vrai travail de terrain pour arriver à écrire cette histoire, parce que sans archives, il n'y a pas d'histoire. Et voilà, et donc il y a une vraie urgence de le faire maintenant et pas plus tard. Et enfin, on s'occupe aussi d'un objet qui est relativement difficile, parce que le punk se plie mal, on va dire, à l'analyse institutionnelle et académique. C'est pas facile à définir, le punk, c'est à la fois tout et son contraire. Et donc l'objet en lui-même est un objet extrêmement paradoxal et pas forcément très facile à traiter en lui-même.
Alors, on travaille à partir de trois hypothèses principales, enfin trois grandes questions. On travaille sur le temps. Voilà, donc pour, comme je l'indiquais là, revisiter la pertinence des périodisations, des ruptures qui participent à définir et organiser cette scène punk en France. Mais la question du temps est intéressante, puisqu'on part quand même d'un mouvement dont le slogan finalement est devenu No Future dès le départ, et puis qui s'est réinventé. Ah, donc il y a ce paradoxe du temps qui nous a semblé vraiment important. Quel est ce mouvement au fond ? Quelle est cette force musicale qui n'envisage pas son futur et qui finalement, 40 ans après, est toujours là ? Donc ça, c'est quand même un aspect fondamental. L'espace, c'est travailler autour des spécificités du punk en France. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une copie de l'anglo-américain, ou est-ce qu'il y a une vraie spécificité, est-ce qu'il y a une originalité, est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, sur cette scène française, et non seulement au niveau national, mais ensuite au niveau local, au niveau régional. C'est-à-dire, comment cette musique finalement se traduit, se retraduit, hein, au niveau local. Et troisième hypothèse de travail, celle de la cohérence paradigmatique. Alors, je m'explique, au-delà de l'aspect très kaléidoscopique, très éclaté du punk et anarchique, hein, c'est une revendication au départ, on voit quand même dans le temps un ensemble de cohérence, hein. Il y a des moments où on sent bien que on peut définir des modèles, hein. Il y a tel son, tel look, on voit bien, hein. Le punk épingle la nourrice, on voit bien le son au début, puis le punk à crête, enfin bon, l'anarcho-punk, voilà. Donc c'est travailler sur cette espèce d'aller-retour entre l'éclatement au fond et la mise en cohérence. Voilà. Alors
pour faire ce projet, nous on a une super équipe à la fois très interdisciplinaire, donc on a à la fois des chercheurs qui viennent de plusieurs disciplines, on a... ils peuvent lever le doigt au fur et à mesure. Un anthropologue. Eh ben, Philippe. On a plusieurs historiens. Christophe en est un. On a Pierre aussi, Pierre Abou. On a une historienne d'art. C'est la seule. Alors. En plus, Marine. C'est une femme. Alors. On n'y a pas beaucoup de femmes dans notre projet. Et on a aussi Estelle, Sioux, pour la photographie. Dominique, qui nous fait le son. Et puis on a des vrais punks qui sont très utiles et qui participent beaucoup à nos journées d'études, Michel, Magali, Laurence. Voilà, et donc il y en a plein d'autres qui ne sont pas venus aujourd'hui, mais qui viennent à Paris, il y a Simon aussi. Et l'idée étant de chacun travailler avec nos méthodes et ce qu'on sait faire, et puis de mettre en commun nos compétences pour arriver à répondre petit à petit à cette grande mosaïque qu'est le punk. Alors.
Oui, je voudrais juste une chose. L'autre idée, c'est pour ça que ça peut surprendre que dans une équipe, il y ait comme ça. Ben, en plus, oui, il y a des punks. L'idée de départ, c'est quand même qu'on n'est pas arrivé avec des certitudes, on est arrivé avec beaucoup de questions. Et notre souci premier, ça a quand même été de réfléchir à comment on pouvait rencontrer les gens. Hein, rencontrer les gens, les acteurs de cette scène, et puis créer un projet qui soit quelque part collaboratif. Hein. Il n'y a que comme ça, en réalité, qu'on a réussi à avancer. Hein. Rencontrer les gens, les faire adhérer au projet, et puis on y reviendra parce qu'un des enjeux, comme l'a dit Solveig tout à l'heure, c'est aussi traquer du souvenir, de l'archive, des sources, etc. Et ça, c'est fondamental. Hein, voilà.
Alors on va passer vite parce que c'est pas, on va pas vous assommer déjà avec oui. Ça tout direct. En fait, on a 8 grandes thématiques de recherche qui nous occupent. La première est autour de tout ce qui est historicité et généalogie. Donc en gros, arriver à dégager qu'il y a des générations bien claires qui apparaissent en termes de son, Luc l'a dit, en termes de look, en termes d'esthétique. Donc voilà. Le deuxième chantier, c'est un gros chantier autour du vieillissement et de la mémoire. Montrer de quelle manière en fait la mémoire de 76 par exemple travaille pour réactualiser le mythe-punk en permanence. Le troisième chantier, c'est celui de la médiation et de la médiatisation. Ça, c'est un chantier important parce qu'il nous permet de répondre à la question essentielle, qu'est-ce qu'est le punk? Et en fait, nous, on n'est toujours pas sûr de savoir vraiment qu'est-ce que c'est le punk. Ça dépend de qui le dit, de comment on le dit. Donc, ça,
voilà, travailler sur les formes de désignation et d'autodésignation. Hein. Voilà, les musiciens disent qu'ils sont punk ou pas, mais il y a aussi les classements faits par la presse, la manière de représenter, hein, la manière de... Voilà, donc c'est ce chantier-là qui est fondamental.
Alors, un quatrième chantier, c'est sur les homologies esthétiques, artistiques et musicales. Donc, c'est voir comment un son punk peut correspondre exactement à une esthétique et comment, en fait, les différentes. La musique répond un code spécial visuel, etc. Et comment tout ça se fait une mosaïque cohérente. Un chantier important qui fera l'objet d'une prochaine rencontre en mai, c'est sur la violence de la scène punk. Un chantier évidemment fondamental, c'est celui sur le corps, sur le genre, pour voir quelle est la place des femmes dans le punk. Et enfin, un chantier plutôt synthétique et final, une fois qu'on aura bien couvert le territoire, s'attachera à analyser le fonctionnement, comment ça marche tout ça en réseau sur le territoire français. Voilà. Alors notre projet est structuré autour de journées d'études thématiques qui sont organisées à Paris. Au début, on n'avait pas beaucoup de sous au début du projet, donc c'était plus simple à Paris pour que tout le monde se croise. Et depuis qu'on a été financé par l'ANR, on a décidé de lancer 4 journées par an sur le territoire. Donc il y a eu Toulouse en décembre, c'était la première, et Caen, c'est la deuxième. Et cette année, on ira à Montaigu en Vendée en juillet et à Rennes en décembre. Voilà pour les... Donc l'idée, c'est de couvrir aussi plein de villes du territoire, que ce soit des grandes villes, des petites villes ou des moyennes villes, voir qu'est-ce qui s'est passé avec le punk dans cette ville-là.
Oui, parce que d'ores et déjà, on a quand même quelques éléments de résultats. Et une des journées d'études qu'on a faites assez récemment, qui s'appelait Punk des villes, Punk des champs, a quand même commencé à montrer que cette histoire-là, dont on vous parle depuis un petit moment, je le redis, c'est pas uniquement l'affaire de la capitale, c'est même pas uniquement l'affaire des grandes villes, comme on l'entend souvent, Lyon, Bordeaux, Rennes, etc. C'est vraiment quelque chose dont on peut saisir l'importance, l'intensité, dès le départ, dans toutes les petites villes, bourgades, villages, etc. Alors Christophe, tu y reviendras peut-être, mais tu avais fait une excellente communication sur Feuckland. Les petits groupes, les groupes de village, mais dès le départ. Hein, c'est-à-dire que c'est, ça, je pense qu'il faut en prendre conscience. En France, le punk, c'est dès le début quelque chose qui touche une immensité de réseaux, de petites villes.
Alors ça, c'est... Donc, je passe parce que c'est pas très forcément très intéressant. Alors, on va avoir un site internet du projet qui s'appellera Pind. Donc le site va bientôt sortir. Alors tout ça, on est dans des institutions un peu rigides, donc il faut qu'on attende des dates, des machins, des trucs. Donc ça s'appellera Pind, sûrement @univ.tour.fr. Le site a été conçu pour qu'il y ait... Toutes nos journées d'études sont captées, ont des captations son, donc comme ça on pourra écouter toutes les communications des journées d'études. Ça commence à la journée d'études 5, je crois, si je m'abuse. Il y a des photos parce que Sue illustre tout ça. Il y aura aussi, vous pourrez suivre tout ce qu'on publie, parce qu'on fait des articles scientifiques, des expositions, on fait plein de choses, donc vous pourrez suivre l'actualité du projet. Et surtout, il y aura un lien, alors on va y venir. En fait, ce qu'on voudrait vraiment susciter à travers ce projet, c'est une grosse collecte d'archives, que ce soit papier ou numérisé, du point de vue du territoire national. Alors, la photo qu'on vous a prise, c'est une photo qui date de mercredi. Il y a un groupe, donc les Saintes Majestés, qui nous ont vraiment gentiment confié leurs archives. Et mercredi, avec l'aide d'un archiviste du ministère de la Culture, on est allé les trier. Donc, on a tout classé, tout retrié, tout lu, globalement, même rapidement, mais ils étaient obligés pour trouver les dates. Voilà, donc à la fin, ça finit comme ça, dans un carton standard qui permet la bonne conservation avec le nom du groupe, LSM. L'idée étant de faire vraiment, on voulait faire ce prototype-là pour voir qu'est-ce qu'on pouvait susciter comme archive, qu'est-ce qu'on pouvait récupérer, qu'est-ce qu'on pouvait derrière en faire, parce qu'évidemment, il faudra exploiter ça. Donc, c'est un peu un appel, en fait, à toutes les bonnes volontés qui ont des archives. On peut les traiter, on peut s'en occuper, on peut après en faire quelque chose derrière, et puis aussi du coup on peut aussi les numériser pour ceux qui veulent absolument pas lâcher leurs archives, ce qui est bien compréhensible, mais voilà, donc c'est le travail qu'on espère mener dans les années à venir. On va traiter les prochaines archives, c'est celle d'un squat, qui est le squat de la miroiterie. Michel m'avait tout donné il y a 3 ou 4 ans de ça, j'avais récupéré tous les dossiers de contentieux administratifs, etc. Elles vont faire l'objet de deux cartons, je pense, pareil. Ouais. Et on espère faire pareil avec une radio. Ouais, ça va, tu vas finir dans un carton.
Oui, voilà. Mais c'est pas destiné à être enfermé, hein. C'est juste,
c'est un mode de conservation. C'est un mode de conservation parce que vous voyez, par exemple, là dans le fond qu'il y avait là, et ben, il y avait plein de photos qui étaient collées, qui étaient en mauvais état, donc il faut aussi les sortir une par une, faire en sorte qu'on puisse, dans 15 ans, encore les consulter.
Voilà, c'est préserver des fonds dans les qualités, la qualité de la conservation des archives. Hein, donc, voilà. Alors, on y insiste bien, mais c'est fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'histoire sans archives. Hein. Et là, on a eu cette chance donc, avec les Salles Majestés qui nous ont vraiment confié toutes leurs archives. Hein. Je ne sais pas si c'est la vie du groupe hein, qu'on a entre les mains. Il y a bien sûr de la revue de presse, il y a les pressbooks, etc., mais il y a aussi les démos, il y a même des masters. Hein, des albums, il y a des publicités, enfin il y a vraiment, et on a même trouvé des paroles de textes, des textes initiaux, hein, des chansons, donc les archives, parce que ce qui est excellent et faire l'histoire du punk, c'est ça, c'est travailler sur des nouveaux types d'archives, hein, c'est des démos, des bouts de papier sur lesquels on a griffonné un texte, c'est des fanzines, c'est tout un tas de choses, des photos, et on a besoin de ces traces là pour avancer sur cette histoire. Hein, c'est pas magique l'histoire, ça se fait à partir de sources. Voilà.
Alors ça, du coup, je rebondis parce que ça a aussi un rapport avec les archives. C'est ce qu'on est en train de créer là. On est en train de faire une base de données qu'on veut ultra collaborative, c'est-à-dire qu'on aimerait que n'importe qui puisse se loguer et rentrer les données sur son groupe, par exemple. Donc là, on vous a mis une page, elle n'est pas encore opérationnelle parce qu'on est en train de travailler dessus, mais à terme, elle se présentera à peu près comme ça. Je ne sais pas si vous voyez tout en haut à gauche, juste sous Punk is Not Dead, là, le dessin, il y aura une entrée par groupe, une entrée par personne, une entrée par production et une entrée par événement. Et donc, nous, évidemment, au sein de l'équipe, mais aussi vous, si vous voulez, vous pourrez rentrer les données sur les groupes. Il y aura la possibilité de scanner, de rajouter le visuel d'une pochette de disque, par exemple, ou des textes de chansons. L'idée étant, en fait, de la même façon, de faire un gros travail sur la scène punk en France de manière très concrète et démontrer tout ce dont, enlever plein de préjugés dont on entend souvent parler, comme quoi par exemple le punk ça serait que Paris, Rouen et Le Havre, que Paris, Rouen et Lyon, ou que à partir de 77 il n'y a plus le groupe punk par exemple. Je pense qu'élaborer une base de données comme ça assez finement, de manière participative, ça permettra vraiment de tordre le cou à ce genre d'idées.
Voilà.
Alors pour conclure,
PIND, c'est quoi ?
Alors c'est l'acronyme de Punk is not dead.
Punk pas mort.
C'est aussi le nom d'un projet de recherche consacré à l'histoire de la scène punk en France depuis 1976 jusqu'à nos jours.
Un retour vers No Future qui interroge l'existence et les conditions d'existence de la scène punk en France depuis 40 ans.
Ça parle de musique et de musiciens, d'artistes et de visuels, de la débrouille et de la vie sur scène ou au squat, d'une création en résistance à Caen, Rouen, Paris, Toulouse, Fumel, Rennes, Montaigu, Lyon, Saint-Étienne.
Ça parle des marges et d'un regard sur l'autre, ça parle de la vie, de la poésie, du corps, de la danse, des manches de guitare, des tatous et des marques, et des marques, des filles et des garçons, de la dope et des avenirs qui en meurent, de la jeunesse, de la vieillesse qui surprend toujours en creux ceux qui pensaient ne pas survivre à No Future.
Ça parle de 77 et des années 80, 90, 2000, 2010. Ça parle d'aujourd'hui et sans doute de demain.
Ça cherche, ça discute, ça polémique, ça gueule parfois, mais toujours pour comprendre.
Bref, c'est un projet essentiel, piloté et mis en musique par des chercheurs et des musiciens. Une équipe terrible et tellement motivée.
Do it yourself, just take a look. Voilà. Voilà. On peut donner la parole à... Je ne sais pas comment vous avez... On est dans les temps ? Oui ? Bon, je ne sais pas s'il y a des questions. Ou ça viendra peut-être après, on peut faire... C'est free. Hein. Tu dis, Christophe, c'est toi le chef. On fera les questions après ? Ok, ça marche.
Ouais, c'est juste que comme c'est un peu spécifique, tu vois, après on passe...
Ouais, sur le projet, c'est une présentation générale. Hein. Moi, je voudrais dire juste parce que on vient de se rencontrer. Je suis très heureux de revoir Jean-Loup Janer à titre personnel. Et là, je le dis en tant que musicien parce que Jean-Loup nous avait enregistré avec Kik, donc le chanteur Strykine, en 88 pour l'émission Décibel à FR3 Rennes. Et d'ailleurs, j'ai les images, donc pour les regarder. Non, tu vas être surpris. Je sais pas si t'as gardé des archives, justement, de Décibel, mais t'en parleras peut-être. Et je suis vraiment très touché, hein, je le dis, parce que c'est la vie de musicien. Et quand Christophe m'a dit que tu venais, vraiment, ça m'a... Voilà, donc je suis très content.